Europe 1. Europe 1,
14h, 15h,
On de la traconte.
Bonjour à tous. Est-ce que le nom d'Anne-France d'Hauteville vous dit quelque chose? Si la réponse est non, alors c'est que vous êtes trop jeune. Mais rassurez-vous, dans une heure, vous serez au parfum. Anne-France d'Hauteville a été dans les années 70 une aventurière très célèbre. La première femme à avoir bouclé un tour du monde à moto, c'était en 1973. C'était une performance physique, mais aussi un acte féministe. Rendez-vous compte, en 1973, il y a 45 ans, faire de la moto pour une femme, c'était très inhabituel. Bonjour Anne-France d'Hauteville.
Bonjour Christophe Ondelatte.
Féministe, ça vous va ?
On en parle tout à l'heure.
Eh bien d'accord. Je vais donc vous replonger 45 ans en arrière, Anne-France d'Hauteville, dans ce tour du monde qui vous a rendu célèbre. Impossible évidemment de raconter tout votre périple. J'ai choisi deux étapes, très exotiques pour l'époque, et absolument d'ailleurs impensables aujourd'hui, le Pakistan et l'Afghanistan. Et tous ceux qui voudront poursuivre, eh bien pourront lire votre livre « Et j'ai suivi le vent » qui vient d'ailleurs d'être réédité dans la petite bibliothèque des éditions Payot. C'est parti. J'ai écrit cette histoire avec Quentin Mouchel, réalisation Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Je vous emmène à Paris, dans la rue, au tout début de l'année 1973. Vous imaginez le décor ? Les voitures, les R5, les R12, les 504, les GS, ça y est, vous visualisez ? Le début des années 70. Et là, vous la voyez, la jeune femme, là, la brune, avec sa crinière. Celle qui marche vite, nerveuse, le visage tendu, les traits crispés. On dirait qu'elle va mettre une rouste à quelqu'un. Eh bien, c'est son histoire que je vais vous raconter. Anne-France d'Hauteville, 29 ans, une sacrée nénette, je vous préviens. Je vais vous dire dans une minute pourquoi elle est nerveuse comme ça et à qui elle mettrait bien une rouste. Mais d'abord, laissez-moi vous la présenter. D'abord, disons les choses. Anne-France d'Hauteville est une bourgeoise, une fille de bonne famille du 16e arrondissement. Et quand vous la verrez s'embarquer dans son aventure tout à l'heure, n'oubliez jamais ça. À l'origine, c'est une bourge. Il y a 5 ans, en 68, pendant les grèves, au lieu de faire la mariole sur les barricades, elle s'est achetée une mobylette. Et elle est partie sillonner la France en meule. Et ça lui a beaucoup plu, beaucoup. Alors en rentrant, elle a passé son permis moto. Et en 71, il y a 2 ans, elle a tout lâché. Elle était rédactrice conceptrice dans une agence de pub, une parisienne tourbillonnante. Elle trouvait que sa vie manquait de sens. Elle a tout envoyé balader. Et elle s'est engagée dans un raid à moto, le raid Orion, Paris, Ispahan, en Iran. 92 partants, la seule femme. Et elle est arrivée au bout sur sa Guzzi 125. Et après, eh ben elle a continué. Avec 11 autres motards, elle est allée jusqu'en Afghanistan et jusqu'au Pakistan. Et là, je vous demande de faire un petit effort. Remettez-vous dans l'esprit de l'époque. Pompidou est président de la République, vous voyez ? Alors une femme qui va en moto jusqu'au Pakistan, c'est très audacieux. Et forcément, depuis son retour, Anne-France d'Hauteville connaît une petite célébrité. Et la célébrité, c'est bien connu, ça n'a pas que des avantages. Et c'est pour ça qu'elle est énervée là, dans la rue, ce jour de 1973. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'elle va emplâtrer quelqu'un. On vient de lui dire que des journalistes remettent en cause son exploit. Ils l'accusent d'être allé jusqu'au Pakistan en camion. La moto dans la remorque. En camion. Elle. Elle déboule chez un de ses copains, Tom, et elle lui raconte tout.
Tu sais comment j'ai voyagé l'année dernière ?
Ben en moto.
En camion. Ha, tu le savais ? En camion, moi.
Et là, elle balance des coups de pied dans les meubles, elle fait valdinguer une chaise.
Mais d'où tu sors ça, Anne-France ? Je viens de l'apprendre d'un journaliste.
te mets pas dans cet état. On sait que tu l'as fait en moto, ton voyage. Ouais, c'est ça. Toi, tu le sais. Mais c'est pas le cas de tout le monde, manifestement. Alors, je vais te dire un truc. Cette fois, je pars toute seule sur une 125 et je vais aller en Alaska. Et je le fais constater par la police. Et ils vont tous fermer leur claque-merde. Elle repart. Un magasin de moto lui prête une Kawasaki 100 cm3, jaune. Air Canada lui paye le voyage. Elle met sa moto dans une grande caisse en bois. La caisse en bois dans un 747 et direction Montréal. Et la voilà au Canada, en train d'ouvrir sa caisse et de déballer sa moto. Et là, un type lui dit
« Vous allez où comme ça ?»«
Je vais en Alaska. »
Elle est trop petite, ta moto. Elle tiendra jamais. Tu crois sérieusement que tu vas aller en Alaska comme ça?
Je vous le dis tout de suite, l'Alaska, elle y est un mois plus tard. Elle a connu quelques bricoles en route, des problèmes mécaniques, une chute, mais elle y est arrivée. Elle est à Anchorage, avec sa 100 cm3. Elle a dompté les nids de poules des routes d'Alaska. Et si je vous raconte son histoire aujourd'hui, c'est parce qu'elle ne va pas s'arrêter là. Seule, en 1973, elle se lance dans un tour du monde en 100 cm3. Japon, Inde, je vous propose de la retrouver au Pakistan.
Europe 1, on de la raconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'histoire d'une grande aventurière des années 70, Anne-France Dauteville, la première femme à avoir réalisé un tour du monde à moto. C'était en 1973 et elle sera là 45 ans plus tard, tout à l'heure, pour débriefer cette histoire. Et pour vous la raconter, je suis parti de son livre qui vient de ressortir chez Payot et j'ai suivi le vent. Je ne vais pas tout vous raconter. Elle traverse le Japon, l'Inde et la voilà en octobre 73 qui arrive au Pakistan sur sa petite Kawasaki 100 cm3. Elle est au poste frontière, avec sa veste en cuir, sa salopette et son casque vissé sur la tête. La moto chargée comme une mule.
Good morning. Welcome in Pakistan. Passport, please.
Le policier lui accorde un visa de 3 jours, juste le temps de traverser le pays. Vous vous souvenez qu'elle connaît déjà le Pakistan. Elle y est venue l'année dernière avec le raid Orion. Pour vous dire la vérité, elle n'en a pas gardé un souvenir impérissable. Elle se souvient d'un monde peuplé d'hommes avec des yeux très noirs et des vêtements très blancs qui la regardaient en silence, sans curiosité, sans amitié. Bref, la voilà de retour au Pakistan, seule, avec sa moto. Au milieu de gens qui conduisent comme des fous furieux. Les chauffeurs de camions notamment, vous savez les jolis camions avec les petits rideaux et leurs franges de perles. Ce sont des tarés qui foncent sans se poser de questions. Sans compter que pour obliger les Fangio à ralentir, les Pakistanais ont semé de ci de là des dodanes. Tu ne ralentis pas à temps, tu finis dans le décor. Bref, sur sa moto, Anne-France n'en mène pas large. Elle a l'impression de jouer sa vie à chaque fois qu'un camion la double. Elle roule comme ça jusqu'à Gujarat, au nord-est du Pakistan. Et là, elle cherche un endroit pour dormir. Et on la dirige vers une école de filles. Le directeur s'appelle Monsieur Khan. Il lui dit, pas de problème, venez dormir à la maison, je vous présenterai ma femme et mes enfants. C'est lui, Monsieur Khan, qui va la réconcilier avec les Pakistanais. Dans son livre, elle écrit, Monsieur Khan est un homme plein d'esprit et de curiosité. Il a commencé une conversation de bonne éducation. Puis il a saisi la manière dont je réagis, il m'a lancé quelques signaux, il s'est installé entre nous une espèce de complicité qui faisait que nous nous esclavions aux mêmes plaisanteries avant même de les avoir dites. Était-ce là ce Pakistan opaque de l'année dernière, la méfiance qui m'avait tant rebuté ? Quoi qu'il en soit, le lendemain matin, elle reprend la route. Et tout d'un coup, au sommet d'une côte, au niveau d'un petit village, alors que sa moto rame dans la montée, elle voit un groupe d'hommes, au loin, qui se dirigent vers elle. Ils ont des fusils à la main. Et là, elle entend des détonations. Elle est prête à se jeter dans le fossé. Les hommes se rapprochent et elle s'aperçoit que derrière eux, sur un cheval, se trouve un homme tout habillé d'or et de soie précieuse. Il porte une calotte sur la tête et son visage est recouvert d'une longue frange de perles. Elle s'est fait peur pour rien. C'est un mariage. Et au Pakistan, on tire des coups de feu pour les mariages, coutume locale. Et l'homme sur le cheval, eh ben c'est le marié. Elle leur fait un petit coucou et elle les entend dire
« Come, come !»«
Viens, viens !» Elle aurait bien voulu, mais elle n'a que 3 jours pour traverser le pays, pas un de plus. Elle ne peut pas se mettre en retard et c'est bien dommage. Et elle poursuit sa route en remontant une rivière, le Kaboul, qui coule vers l'Afghanistan. Et elle s'arrête pour faire une pause près d'une citadelle. Elle ne va pas rester longtemps, elle ne coupe même pas le contact de sa kawa. Elle veut juste prendre une photo de la citadelle. Elle sort son icône, elle pointe l'objectif vers la citadelle, et là elle entend.
Hello !
Elle se retourne, et elle voit un militaire en manteau vert. Elle panique. S'il l'arrête, elle va être fouillée. Et si elle est fouillée, on va la dépouiller de ses pellicules. Alors ni une ni deux, elle saute sur la moto, et vroom ! Elle laisse le militaire planté là. Dans son rétro, elle le voit au loin qui la prend en chasse, mais sa kawa 100 cm cube est plus puissante et le militaire finit par laisser courir. Elle le voit lever le poing en l'air, fou de rage. Et elle arrive à la passe de Khyber, un long col. Derrière les montagnes, c'est l'Afghanistan. Elle emprunte une longue route qui monte, qui monte, qui monte, qui fait des virages, des épingles, avec des ravins vertigineux. Tous les sommets alentours sont coiffés de radars. Il y a des soldats partout. Et au bout de 50 kilomètres, la voilà au poste frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan. Une jeune femme, seule, en 1973, sur une moto conçue pour aller de la maison au boulot. Elle est vraiment gonflée. Le poste frontière est tenu par 4 hommes, 4 types avec des gilets brodés. Un barbu s'avance.
Good morning. Where are you coming from?
France.
OK. And where are you going?
Afghanistan.
Afghanistan. You are very brave woman.
Le policier vient de lui dire qu'il la trouve courageuse. Une claque amicale dans le dos et voilà Anne-France d'Hauteville qui pénètre en Afghanistan.
14h18, on retrouve Christophe Ondelatte.
Europe 1, Ondelatte raconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'histoire d'une héroïne française des années 70, Anne-France d'Hauteville, la première femme à avoir réalisé un tour du monde à moto. Et je m'inspire pour cela de son livre qui vient d'être réédité chez Payot, Et j'ai suivi le vent. Et elle sera là tout à l'heure, 45 ans plus tard, pour débriefer cette histoire. Partie de Montréal, elle est passée par l'Alaska, le Japon, l'Inde, le Pakistan, et la voilà sur sa Kawasaki 100 cm cube qui arrive à la frontière de l'Afghanistan. Avec sa veste en cuir, sa salopette poussiéreuse, son casque et sa petite moto jaune chargée comme un baudet, les gens ne s'aperçoivent pas tout de suite que c'est une femme. Mais quand les gardes frontières afghans s'en aperçoivent, ils sont sciés.
Very brave woman. France is very good, hein?
Et Anne-France obtient un visa d'une semaine. Au poste frontière, elle est à 230 km de la capitale, Kaboul. Il est 14h, elle rêve d'une bonne assiette de baklava et d'une bière fraîche. Si tout va bien, elle y sera au coucher du soleil. Si tout va bien. Anne-France n'est pas peureuse. Elle sait qu'en Afghanistan, au milieu des gens, elle ne risque strictement rien. Mais sur la route de Kaboul, elle va traverser des zones désertiques. Et là, on lui a dit « Méfie-toi des hommes. Ils ne savent pas se tenir. On peut se faire violer pour un oui ou pour un non. Donc, prudence. » Anne-France décide d'aller de petite ville en petite ville, de ne jamais s'arrêter entre deux. Et la voilà qui prend la route, le nez au vent, avec son rêve de baklava et de bière fraîche dans la tête. Sauf que ça ne va pas se passer comme elle l'avait prévu. Au milieu de nulle part, elle s'aperçoit que son pneu arrière est crevé. La galère. Elle s'arrête, elle sort ses démonte-pneus, sa chambre à air de secours. Elle a tout ce qu'il faut pour réparer. Et elle commence par démonter sa roue en se disant « pourvu que personne ne passe ». Et là, elle entend un bruit de moteur au loin. Un camion surgit sur la route. Un camion qu'elle reconnaît tout de suite, il était au poste frontière tout à l'heure. Et évidemment, quand le chauffeur arrive à sa hauteur, il ralentit et il passe une tête à la fenêtre.
Capote ! Oui, capote ! Mais ça ira, merci !
Et il repart. Ouf ! Mais dans la seconde, surgit un autre camion, rouge. Et il ne ralentit pas, il freine devant elle dans un fracas de tôle rouillée. Et trois types en descendent. Des moustachus avec des trognes de bandits, l'air franchement pas commode. Pour leur faire croire qu'elle n'a pas la trouille, elle pose ses démonte-pneus et elle va vers eux avec un sourire crispé.
Hello ?
Pas de réponse. Les trois types sont là, coude à coude, pas de réponse. Et d'un coup, ils explosent de rire. Le plus grand prend Anne-France par les épaules, il l'assoit par terre et tous les trois, ils se mettent à lui changer son pneu. Mieux que ça, ils se relaient pour lui faire de l'ombre. Et quand c'est fini, ils lui serrent la main. Tous les trois, avec un grand sourire.
« Frances, very good, France !»
Dans son livre, elle écrit « Ils sont partis, je ne les ai jamais revus. Ils ne m'ont ni volé, ni violé, ni tué. Ils ont eu du respect pour la femme que je suis. Ils m'ont aidé et protégé. Je le savais, et pourtant j'ai eu peur en les voyant venir à moi. J'ai eu peur, et maintenant j'ai honte d'avoir craint. Comme si je les avais insultés en ne leur faisant pas confiance. » Au premier instant. Du coup, elle s'enhardit. Et un peu plus loin, elle s'arrête pour prendre un thé dans une chaikana, une petite boutique au bord de la route. Et elle achète une pastèque. Et pour s'en couper une part, eh ben, elle sort son couteau. Les gens autour sont médusés. Il n'y a que des hommes, bien sûr. Une femme à moto, c'est déjà un événement. Mais une femme à moto qui est armée d'un couteau, on dirait qu'ils n'ont jamais vu ça. L'un d'eux s'approche, il passe son pouce sur la gorge, manière de demander « est-ce que c'est un couteau pour trancher les gorges ?» Anne-France, qui a un peu vaincu sa peur, leur répond en mimant
« non, c'est pour me curer les ongles !»
Et là-dessus, tout le monde se marre. Et elle, elle est sur le point de partir, et l'un des types lui dit
« wait, wait, attendez !»
Et elle le voit qui court comme une fusée jusqu'à sa voiture. Et il revient avec un bébé emmailloté. Et il lui colle le bébé dans les bras.
« Il est à toi ?»
Il fait oui de la tête.
« Il est très beau. Il est très très beau. Félicitations !»
Et l'homme retourne à la voiture avec son bébé. Et de là où elle est, Anne-France aperçoit une femme voilée dans la voiture qui lui fait un petit signe. J'aime beaucoup ce moment où cet homme qui m'a trouvé tellement inhabituel est allé chercher son enfant afin que je l'admire et que je l'admire lui par contre-coup. À quelqu'un de rare dans son optique, il a offert ce qu'il y a de plus précieux, naïvement, simplement. Et en fin de journée, Anne-France arrive à Kaboul. Là, elle marchande un paquet de gauloises à un gosse et elle entre dans un restaurant.
Je voudrais deux grosses portions de baklava. Énorme, hein ?
Et en riant, le serveur lui répond
« Ok, mister. I would like a beer. Fresh beer. »
Elle lui réclame une bière, bien fraîche.
« No beer. Finish beer. » « Comment ça, pas de bière ?»
Et là, le type lui explique que depuis la révolution, il n'y a plus d'alcool en Afghanistan. Et ça n'est pas le seul changement.
Raconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'histoire d'une grande aventurière des années 70, Anne-France Dauteville. Première femme à avoir réalisé un tour du monde à moto. C'était en 1973. Et je m'inspire pour cela du livre qu'elle avait publié en rentrant « Et j'ai suivi le vent » qui vient d'être réédité aux éditions Payot. Et 45 ans plus tard, Anne-France Dauteville sera là, dans un instant, pour débriefer cette histoire ancienne. Partie du Canada, elle est passée par l'Alaska, le Japon, l'Inde, le Pakistan et la voilà en Afghanistan, pays où elle était déjà venue un an plus tôt et qui, entre-temps, a été secouée par une révolution. Elle se souvient bien de l'année dernière. Elle s'asseyait en terrasse avec sa bière. Elle regardait passer les gens. Les femmes en tchador, les enfants, les montagnards, les paysans. Tout un petit monde qui parlait, qui criait, qui chantait. Et ces policiers qui tiraient sur leurs cigarettes de hashish. Dans son livre, elle écrit « Kaboul a bien changé. Moi aussi. Pourtant, nous nous sommes retrouvés comme deux vieilles amies. Je me suis promené le long des quais, j'ai marchandé des bijoux que je n'ai pas achetés, discuté avec des gamins et des mendiants. Je me suis rempli le nez de parfums d'épices le long des restaurants où les kebabs cuisent en plein air. Et j'ai roulé doucement dans les rues vertes des beaux quartiers. J'ai eu l'illusion que tout le monde m'aimait et que j'étais universelle et chaude. Et à regret, elle quitte Kaboul. Toujours ses fichus visas à durée limitée qui l'empêchent de s'attarder. Et elle prend la route de Bamiyan. Et elle fait une pause dans une chaïkana. Et là, trois hommes assis en tailleur lui font une petite place sur leur tapis. Et ils regardent sa moto.
Tu comptes passer la montagne avec ça? Mais je vais essayer. Tu nous prends en photo? Vraiment? Je peux? Tu m'y autorises? Oui, pour toi.
Et les voilà qui posent, assis, les jambes croisées, le buste bien redressé. Elle n'aurait jamais osé les prendre en photo s'il ne l'avait pas invitée à le faire. Arrivée à Bamiyan, elle se trouve un petit hôtel et elle s'assoit au restaurant.
Américaine? Non, française. Et toi, tu viens d'où? Turkménistan.
Et il explique qu'il est tailleur de pierre.
Quel beau métier! Je te félicite. You are married? T'es marié? Non, mais j'ai deux chats. Moi non plus, je ne suis pas marié. J'économise pour m'acheter une femme. Dans 2 ans, j'aurai ma famille. Alors, je te souhaite tout le bonheur du monde.
À ce moment-là, le type veut payer la note.
Ah ben non, tu payes pas. Comment veux-tu t'acheter une femme si tu invites les touristes?
Et le lendemain, elle reprend la route vers Kandahar. Et avant de partir, elle dit au revoir à son Turkmène.
La prochaine fois que je reviens... T'auras une femme et 40 enfants. Et moi, 3 motos et 40 chats.
À Kandahar, elle dort sur la pelouse d'un hôtel, sous une bâche tendue sur sa moto. Et la voilà, à la frontière avec l'Iran, sa prochaine étape. Et là, elle tombe sur un garde-frontière, un petit brun avec une voix très douce, qui examine sa valise. Pour qu'on lui fiche la paix, Anne-France a pris l'habitude de mettre un soutien-gorge sur le dessus de la pile. En général, ça les met mal à l'aise et il la laisse filer. Mais là, le monsieur n'est pas du tout mal à l'aise.
You have beautiful eyes. Vous avez très beaux yeux.
Merci.
Kiss me. Embrassez-moi.
Pardon?
Embrassez-moi. S'il vous plaît, donnez-moi mon passeport. Allez, baiser. Vous n'aimez pas les Afghans? S'il vous plaît, mon passeport.
Ce sera finalement le seul problème qu'elle aura eu avec un homme afghan. Le seul. Alors qu'on lui avait dit que les hommes ne savaient pas se tenir en Afghanistan. Prochaine étape, l'Iran.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Voilà pour ce court extrait de votre voyage, Anne-France Dauteville, qui en 1973 vous a amené à faire le tour du monde sur cette moto. J'ai réveillé de vieux souvenirs ou bien est-ce que tout ça est définitivement gravé dans votre tête?
J'ai même pas besoin de fermer les yeux pour être dans les temps d'eau chaude en Alaska, pour être dans le Bouddha de Bamiyan, pour me mettre en colère parce qu'il n'y a plus de bière à Kaboul, et tout et tout. Enfin, c'est gravé.
Par exemple, le visage de M. Khan, qui vous réconcilie avec les Pakistanais, que vous n'aviez pas beaucoup aimé à votre premier séjour.
J'avais rien compris. Quand on est dans un groupe, on était partis, on était nombreux sur ce premier raid Orient. J'étais la seule femme à conduire. Quelques-uns ont continué sur, vers l'Afghanistan, j'y étais. Quelques-uns sont arrivés au Pakistan. Mais quand vous êtes dans un groupe, même petit, ce groupe vous prend une partie de votre attention. Mmh. Et vous n'êtes pas ouverte aux autres. Mmh. Tandis que là, j'étais toute seule. Donc, j'étais disponible pour tout. Quand je dis tout, c'est-à-dire toute l'attention. Et ça fait un voyage totalement différent. Vous dépendez de tout le monde. Mais en même temps, vous êtes tellement exceptionnel pour eux. C'est la télé en couleur, enfin, vous imaginez, surtout à cette époque-là, qu'on ne peut avoir que des échanges. Et si on est de bonne volonté dans un pays où il y a ce sentiment obligatoire de s'intéresser à l'autre et où il y a cette tradition d'hospitalité, ça fait des voyages magiques.
Est-ce que vous avez gardé cette kawasan? On aimerait que vous l'ayez dans un coin.
Non, je l'ai gardée pendant un an ou deux. Et pour rouler en France, moi j'aime bien, quand il y a un danger, pouvoir mettre les gaz et foutre le camp.
Oui.
C'est-à-dire avoir...
C'est pas assez puissant.
Non. Dans une côte, quand vous avez un camion qui essaye de vous bouffer le pare-choc arrière, il faut pouvoir filer.
Elle n'était pas du tout adaptée à un tour du monde, cette petite cylindrée. D'où vous est
finalement
venue cette idée?
Si.
Finalement si.
Mais oui, bien sûr. Il y avait un gars qui s'appelait Neveu, je ne sais plus son prénom. Cyril Neveu, oui, qui est allé jusqu'en Afghanistan sur une mobilette 50 cm3. Non, du moment que ça roule et qu'on peut mettre un carburant dedans, on y va, vous savez.
L'avantage, c'est que ce sont des motos qui se réparent facilement.
C'est que surtout que c'est une moto qui se casse la gueule, je peux la relever.
Oui.
Vous comprenez? Premier voyage, j'avais une moto qui faisait 240 kg vide. Elle penchait, je ne pouvais pas l'empêcher de tomber. Elle était par terre, je ne pouvais pas la relever. Je me suis retrouvée gaufrée à mort sur une piste au nord de l'Iran. Et dans un désert, toute seule, et assise sur la moto, je ne pouvais pas la remonter. Ouais. Il y a un camion qui est arrivé, je l'ai arrêté. Par geste, j'ai demandé aux trois costauds à turban qui en sont descendus de m'aider à relever la moto. Ils ont vu que j'étais une femme, ils ont poussé un hurlement de terreur, ils ont sauté dans le camion et ils se sont taillés. Donc non, je ne veux pas rester coincée dans un désert assise sur une moto, je suis partie avec quelque chose de léger.
Vous faites toujours de la moto, je n'ai pas donné votre âge, vous faites le choix de le dire.
J'ai 74 ans et je suis ravie de les avoir.
Bon, à 74 ans, est-ce que vous faites toujours de la moto?
Alors, j'ai conduit ma moto le 1er août 2012.
Oui.
Le 2 août 2012, je suis montée dans ma voiture faire des courses. Un cerveau d'huître a grillé un stop, s'est jeté dans ma bagnole. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu des os cassés. On a coupé la voiture en deux pour m'en sortir.
Oui.
On a réparé les os. Et depuis, j'ai une polyarthrite qui fait que je ne peux plus conduire. Donc finalement, j'ai vendu ma moto au printemps parce qu'il est temps de se dire que c'est plus possible.
On va marquer une pause et puis on va reprendre quelques moments clés de ce récit. Et on va redémarrer notamment au moment où vous prenez votre décision de tout envoyer balader de votre vie de jeune parisienne écervelée.
Europe 1, Ondelat raconte.
Je vous ai raconté aujourd'hui un tout petit bout de l'épopée qu'a vécu dans les années 70 une aventurière française. Célèbre à l'époque, Anne-France Dauteville, première femme à boucler en 1973 un tour du monde à moto. Et je vous ai raconté deux étapes de ce tour du monde, le Pakistan et l'Afghanistan. Et 45 ans après, je suis très heureux de débriefer cette histoire avec vous, Anne-France Dauteville. Et je voudrais qu'on reparte au tout début de cette histoire, au moment où vous décidez de tout envoyer balader de votre vie de petite bourgeoise parisienne qui travaille dans la pub, qui vit sans doute dans une certaine légèreté, qui doit sortir un peu le soir. Et vous décidez d'envoyer balader tout ça en disant « ma vie manque de sens ». Qu'est-ce qui manquait dans votre vie que vous avez trouvé dans la moto?
Alors, d'abord je suis bélier. Étant bélier, je fais les choses et puis quelquefois, longtemps après, je les comprends. Ce qui est certain, c'est que quand je faisais mon travail de publicité, je m'amusais, c'était joyeux, je gagnais bien ma vie. Quand j'avais un mois de vacances, je m'installais sur ma moto et j'allais me promener en France. Et j'étais mais complètement heureuse. J'adore la route. Je fais de la route comme on fait du bateau. C'est long, c'est monotone, c'est magique, c'est l'errance. Je rentrais et pendant les 11 autres mois de l'année, j'étais simplement heureuse. Et je me suis dit, mais ma fille, quand tu vas mourir, tu auras été très, très, très heureuse.
Un mois par an.
Voilà, un 12e de ta vie. Et le reste, c'est de l'à peu près. Attends, j'ai qu'une seule vie sur les milliards d'années de l'histoire de cette planète. Je vais quand même pas passer à côté de tout ça.
Bon, c'était l'esprit de l'époque aussi. On était après 68. L'idée de tout envoyer balader pour vivre une nouvelle vie était dans l'air du temps quand même.
Certainement.
Hein ?
Certainement.
Vous étiez encouragé un peu par l'époque.
Je pense. Ça me gêne un peu parce que j'aurais aimé avoir, moi, la décision toute seule. Mais effectivement, je suis un produit d'une époque.
Il y avait le rejet de l'argent qui était aussi un truc très contemporain des années 70.
Oh bah, je vais vous dire qu'il s'est rejeté tout seul, l'argent. Hein, parce que là, j'ai entamé une vie de fauché absolument somptueuse.
Qui continue aujourd'hui.
Mais c'est... Qu'est-ce qu'on s'en fout ? On va pas m'enterrer avec mon carnet de chèques. Hein. Du moment que je peux me nourrir et inviter les copains à dîner... Et être chez moi, mais quel bonheur.
Alors le déclic, ce qui vous met en pétard, ce qui déclenche le bélier qui sommeille en vous,
oui.
C'est ce soupçon de journaliste selon lequel vous n'auriez pas fait ce voyage, ce premier voyage jusqu'au Pakistan et,
oui.
Et jusqu'en Afghanistan. C'était du machisme ?
Je sais pas, vous savez...
De la jalousie ?
Je crois qu'à partir... J'avais fait mon premier livre. On avait beaucoup parlé de moi au moment du départ de ce Raid Orient parce que j'étais la seule femme pilote. Et du coup, tout le monde a envie d'en savoir plus sur ma vie. Et puis tout le monde est spécialiste de la vie sexuelle des gens qui sont passés une fois à la radio ou à la télé, vous savez. Sauf que quand c'est quelqu'un du milieu, on le croit.
Mais vous n'étiez pas du milieu, par
exemple. Et j'étais pas du milieu. En plus, je suis une bourgeoise. Et une bourgeoise à Cambouis, ça n'existait pas. Un cheveu dans la soupe, quoi.
Vous étiez une féministe, je ressors ma question du début.
Non, moi j'ai envie que les hommes et les femmes avancent ensemble. Et le féminisme qu'ils se dressaient contre les mecs, j'avais pas envie de ça. Moi je les trouvais délicieux, les hommes, j'avais rien contre.
Il n'y avait pas de conflit.
Moi j'avais pas de conflit. Je rentrerais facilement en conflit actuellement parce qu'effectivement je trouve que les filles à travail égal doivent gagner autant que les hommes. Mais c'est ma limite.
C'est votre limite.
J'ai jamais été militante de rien. J'ai jamais été militante de rien. Je me suis régalée de ma vie. Et j'ai essayé de partager ce régal avec ceux qui me lisent.
Point barre. Une part d'égoïsme là-dedans, alors. Assumez.
Oh, vous avez peut-être de la moralité. Moi, j'en ai pas. Hein. Moi, je me régale.
Point.
Et je partage. Et je partage avec ce que j'ai de plus intime à travers l'écriture. Mais peut-être que c'est de l'égoïsme, j'en sais rien.
Est-ce que vous aviez un goût du risque ? Je pense à cette scène au Pakistan, donc où vous prenez en photo cette citadelle, où vous voyez bien qu'il y a un militaire qui va vous arrêter, vous contrôler, que probablement il va vous piquer vos véhicules photos et que vous allez...
Je risquais de passer en tôle, surtout.
Et vous sautez sur la moto au Pakistan, en 73, et vroom, vous barrez.
Oui, mais parce que j'avais appris chez les Cannes, justement, que le téléphone était tombé en panne dans la région.
Oui.
Et donc, il ne pouvait pas téléphoner pour qu'on m'arrête en route.
Ouais, enfin, il faut réfléchir vite à ce moment-là.
Oh ben, je vais vous dire que quand vous avez le feu qui arrive, vous attendez pas que l'incendie vous brûle. Hein.
Mais chez le motard, il peut y avoir un goût du risque dans le goût de la vitesse.
Oh non. Le goût du risque, c'est aller chatouiller les monstres. Je fais pas ça. Moi, je suis trouillarde. Hein. Non, j'ai toujours été extrêmement prudente. Je fais de la moto comme un panier. Quand ça penche dans les virages, j'ai peur. Non, je cherche pas le danger. J'aime pas le danger.
Ni la vitesse.
Ah non, en plus c'est fatigant sur la longue route. Vous avez une pression du vent sur le casque et sur les épaules. Et si vous allez vite, il y a un moment où vous allez vous user. Quand j'ai fait mon tour d'Amérique du Sud, j'ai vu arriver un jeune Français.
Ça c'est dans les années 80, hein, début
des années 80. Oui, 81, oui. Et il est parti sur les routes et je le voyais qui me disait « Ouais, moi je suis un vrai motard, j'avance ». Il a tenu 10 jours. Moi j'ai tenu 7 mois. Non, il faut prendre soin de la machine, c'est-à-dire la machine mécanique et la machine humaine. Et il faut s'économiser.
On va marquer une nouvelle pause. Je veux qu'après on parle de l'homme musulman que vous rencontrez donc dans ces années-là, qui a sale réputation et que vous découvrez différent de ce qu'on vous avait raconté. A tout de suite.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous ai raconté tout à l'heure un petit bout, tout petit bout de l'épopée que a vécu dans les années 70 une aventurière française célèbre à l'époque qui s'appelle Anne-France d'Hauteville, première femme à boucler en 1973 un tour du monde à moto. Je vous ai raconté deux étapes de ce tour du monde et j'ai la chance 45 ans après d'être avec la même Anne-Claire d'Hauteville qui est aujourd'hui à 74 ans, qui est toujours là, qui est toujours sympa, toujours rigolote, toujours agréable à fréquenter, et je voudrais qu'on reparte en Afghanistan en 1973. C'est intéressant votre expérience parce que vous y allez une première fois en 72 en Afghanistan. À cette époque-là, c'est, je crois, une monarchie assez douce.
Oui, c'est Zahir Shah. C'est pas le pays des bisounours, hein. Ce sont des tribus, chacun est maître chez soi. Mais ils arrivent tous à s'entendre parce qu'il y a ce personnage sacré qui est le roi et qu'une fois par an, ils se réunissent pour la Loya Jirga, c'est-à-dire la Grande Assemblée. Ils mettent les problèmes sur la table et ils les règlent ensemble.
73, vous revenez, c'est devenu une république autoritaire.
Oui.
Et l'alcool a été interdit.
Alors ça, c'est un drame.
Pour vous ?
Bah oui, il n'y a plus de bière. Qu'est-ce que vous voulez qu'on devienne à Kaboul quand on a des barlawa et qu'on n'a pas de bière, voyons.
et eux, il vous semble qu'ils regrettent l'alcool ?
Non, pas du tout. Non, moi je rigole, mais en fait, eux, on n'a pas parlé de ces choses-là avec eux. Simplement, quand je suis allée à Bamiyan, la route était ouverte, mais je n'ai pas pu aller à Bandiamir parce qu'on se battait encore dans les montagnes. J'aurais voulu aller voir Mazar-e-Sharif où il y a une mosquée sublime, c'est au nord de l'Afghanistan, au début des grandes terres plates du nord. Et pareil, la route était coupée, on se battait. Zahir Shah avait été chassé du trône sur les manigances de son beau-frère Daoud, qui avait raconté que la maîtresse allemande de Zahir Shah volait les trésors archéologiques de l'Afghanistan pour les vendre en Allemagne.
Alors vous arrivez en Afghanistan avec un certain nombre d'a priori.
De peur plutôt, je dirais.
Sur l'homme afghan. Qui vous a transmis ça ? Qui vous a dit l'homme afghan est un type qui viole ?
Toute personne qui n'est pas blanc-blanc, franco-française, qui ressemble de près de loin à un arabe, à un maghrébin ou à autre chose, est automatiquement un assassin, violeur, voleur, épouvantable. C'était la pensée du 19e siècle, qui existait encore jusque dans les années 68. Vous savez, le 19e siècle, il est mort en 68 finalement.
Et donc vous avez peur de tous ces hommes que vous croisez ?
Non, j'ai pas peur d'eux, mais il y a quelque part dans ma conscience quelque chose qui était encore inscrit. Et que je n'avais pas mesuré. Et c'est quand ces trois Afghans m'ont réparé mon pneu et que j'ai vu à quel point c'était une connerie ce qu'on nous avait mis dans la tête. On ne savait pas à cette époque-là et on n'avait peut-être pas assez dit qu'un musulman se doit, c'est un devoir sacré de protéger la femme seule, de la protéger, de la respecter. Et c'est ce que j'ai appris ce jour-là avec ces trois hommes. Et c'est pour ça que j'ai eu tellement honte. Parce que leur attitude était tellement belle et tellement généreuse et tellement respectueuse que comment est-ce qu'on peut imaginer que des gens comme ça soient minables ? Alors, c'est pas des bisounours, je reviens là-dessus. C'est pas des tendres tout le temps. Mais le devoir, il est au-delà des petitesses, il est au-delà de la brutalité de ces mondes. Parce que c'est des mondes brutaux aussi.
Alors vous ne pourriez plus aujourd'hui refaire ce voyage-là. Le Pakistan et l'Afghanistan sont des terres fermées actuellement au tourisme. Et il est impensable aujourd'hui de passer la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan en moto pour une femme seule.
Je ne sais pas, je ne tenterai pas le coup, il est possible. Vous savez, ils ont eu 30 ans de guerre. 30 ans de guerre, vous êtes fou pendant combien de générations encore ? Peut-être qu'ils me tireraient dessus, parce qu'ils croiraient que je suis un homme, et ensuite ils seraient très tristes de voir que je suis une femme. J'ai pas envie de prendre le risque.
Mais peut-être qu'il y a des femmes qui le font aujourd'hui. On ne sait jamais, on a toujours... Dans toutes les époques, il y a des gens qui ont le courage de faire ce que vous avez fait en 73. On vous a pris pour une folle à l'époque.
Ah oui, facilement. Mais en même temps, je faisais rire. J'ai une amie qui est une spécialiste de l'islam, qui va assez régulièrement en Afghanistan, mais elle se met un voile sur la tête, elle est dans une famille qui la protège, elle appartient à un clan, et elle continue son étude là-bas. Mais l'errance qui était la mienne, me balader le nez en l'air, de pousser la porte d'une chaïrana et de discuter avec les gens, ça n'existe plus. Kandahar, qui était une ville absolument fascinante où on faisait du vin, vous imaginez, une ville qui chuchotait la nuit, Kandahar, on n'y met plus les pieds. C'est devenu un monde totalement hostile et fermé. D'ailleurs, il paraît que la route entre Kaboul, Kandahar et Herat est complètement enfoncée, elle n'existe plus. Enfin bon, c'est...
Alors moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que vous avez été, je le dis franchement, vous étiez célèbre dans les années 70 jusqu'au tout début des années 80. Et puis vous disparaissez pour le grand public. Vous n'êtes plus tenté de faire parler de vous. Il y a un moment où vous renoncez à la célébrité.
Mais non, c'est Mitterrand, mon pauvre ami.
Qu'est-ce qu'il vous a fait ?
Eh ben, il m'a mis le carnet de change. On ne pouvait plus sortir que 5000 francs par an. Donc je ne pouvais plus voyager.
Ah, le carnet de change, j'avais oublié celui-là, il me revient d'un coup.
Donc on ne pouvait plus voyager, ou alors il fallait que je mette de l'argent dans ma culotte comme à mon premier voyage. Non, hors de question, ça n'avait plus de sens, parce que finalement les gens qui lisaient mes livres se disaient « si cet andouille-là l'a fait, moi je pourrais le faire ». Parce que je ne suis pas du tout athlétique, je suis pas du tout... je veux dire, n'importe qui aurait pu faire mon voyage. Mais voilà, c'était fini. Alors du coup, j'ai commencé à écrire des romans. Et j'ai écrit des romans qui n'ont pas eu le même succès, mais qui m'ont permis d'être très très heureuse et de moi de me ranger en très bon ordre.
Ouais.
Et puis une fois que les romans se sont arrêtés, après il y a une vingtaine d'années, j'ai commencé à travailler bizarrement sur les plantes. Et les plantes me permettent de ranger le monde en bon ordre. Et c'est ça qui est passionnant. Les romans, moi j'ai fait l'équivalent d'une psychanalyse, mais au lieu d'être très triste et de donner mon fric à un type qui s'en fout, les éditeurs m'ont donné de l'argent et j'étais très heureuse. Et puis en travaillant sur les plantes, maintenant je range le monde.
Alors j'ai l'impression de jouer à Stéphane Marie dans Silence ça pousse, mais vous venez d'écrire Miscellanée de mon jardin chez Buchet-Chastel.
Voilà.
Votre jardin, c'est votre territoire d'aventure aujourd'hui.
Ouais, il me raconte le monde.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que les éditions Payot ressortent votre bouquin. Ça vous a peut-être surpris, ça.
Alors,
il sort une première fois en 75, et le voilà qui sort en 2018.
Oui, parce que, imaginez-vous que tout ça, c'était dans un cercueil. Et un jour, une maison de couture qui s'appelle Chloé me contacte et me demande à utiliser 3 phrases de mon tour du monde pour les invitations de la collection automne-hiver 2016-2017. Moi, je tombe de ma chaise, parce que s'il y a un monde qui est loin du mien, c'est celui des bonnes femmes, de la mode en particulier, etc. J'ai rencontré ces gens, et ce sont des bijoux. Ils sont venus à la maison, on a déjeuné ensemble.
Et vous avez sorti vos vieilles photos ?
Ouais, j'ai sorti mes diapos de mes voyages avec les Bouddhas de Bamiyan et tout. Et du coup, on a décidé de raconter ensemble.
Et c'est ça qui a entraîné la sortie de ce livre. Dernière question. Ce bouquin est lu aujourd'hui par des jeunes.
Oui.
Est-ce qu'ils le lisent comme le lisaient les gens de votre génération dans les années 70 ?
Pas du tout. Dans les années 70, tout le monde disait « Oh, une fille qui fait des choses !» Et maintenant, c'est « Ah, le monde était ouvert, mais qu'est-ce qu'on pouvait se régaler ?» Et c'est marrant parce que le livre, il vit d'une autre façon et il devient actuel d'une autre façon 45 ans après.
Merci beaucoup. Ce livre s'appelle... Comment ? Redonnez-moi le titre.
Et j'ai suivi le vent.
Et j'ai suivi le vent, vous le retrouvez dans la petite bibliothèque de chez Payot.
Et on se replonge dans son voyage au long cours à moto. Vous retrouverez On de la raconte dès demain à 14h sur Europe 1 avec cette fois un fait divers à redécouvrir également. L'affaire Bouvard, Marcel Bouvard, 79 ans, retrouvée morte chez elle le lundi de Pâques en 2006. Et on verra que derrière la sauvagerie se cache une affaire de famille et d'héritage.